Prenez soin des vôtres, prenons soin des autres tous ensemble. Vive la liberté d'expression. On se reparle demain.
Ciao!
Bye!
Cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
C'est juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 18h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parler en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
C'est un plaisir de le retrouver ce soir. C'est un de mes collaborateurs préférés. Son nom, c'est Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences. Salut Joël, comment vas-tu?
Je vais bien, merci bien. Et toi, et vous?
Ça va très bien. On parle d'un sujet très intéressant ce soir et j'imagine qu'il y aura une multitude de questions qui nous seront posées par les auditeurs. On parle de cette mère qui a abandonné sa fillette dans le secteur de l'Ontario, qui a été déclarée non criminellement responsable après avoir abandonné sa fille de 3 ans. Et là, ce qu'on nous mentionne, c'est qu'elle est à l'unité fermée de l'Institut Philippe Pinel parce qu'il y a eu une décision qui a été rendue. Donc, elle est non criminellement responsable. Ce soir, on parle de la notion du bien et du mal. Est-ce que ces gens-là sont en mesure ou est-ce que vous êtes en mesure de savoir ce que c'est le bien ou le mal? Et quand on est en crise, est-ce qu'on est capable de savoir que ce qu'on est en train de faire là, c'est bien ou c'est vraiment mal? Donc, tu vas nous parler de l'analyse, de la façon dont c'est fait?
Oui, en fait, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que normalement, la notion de bien et de mal, ça s'installe aux alentours de 6, 7, 8 ans chez les enfants. Donc, les enfants, avant cet âge-là, n'ont aucune idée de savoir si ce qu'ils font est correct ou ce qu'ils font n'est pas correct. La seule idée qu'ils ont éventuellement, c'est le feedback que les adultes vont donner ou le grand frère et la grande sœur, dans le sens que si, par exemple, il y a un enfant de 5 ans qui prend les jouets de son frère ou de sa sœur qui a 10 ans, ben, visiblement, la réaction du grand frère ou de la grande sœur va lui dire « ce que tu es en train de faire, pour l'instant, c'est mal ». Ça va être la même chose en maternelle. L'enfant ne se rend pas compte qu'en se moquant de quelqu'un ou en poussant quelqu'un que c'est mal. Mais si l'enseignant sensibilise le jeune et lui dit ben, « tu sais, quand tu pousses quelqu'un, c'est dangereux ou tu pourrais lui faire mal ou tu lui fais de la peine », mais petit à petit, la notion de bien et de mal va s'intégrer. La question est à quel moment dans la vie d'un adulte on perd en fait ce contact-là et est-ce que ce contact-là est suffisant d'un point de vue collectif pour considérer qu'une personne qui pose un acte extrêmement grave pourrait le déresponsabiliser de l'acte qu'il a éventuellement posé?
Comment on fait quand on ne connaît absolument rien à la psychiatrie ou à la psychologie pour évaluer un individu, à savoir s'il est apte à comparaître ou non? Là, je parle du juge. Et comment on fait quand on est un avocat de la défense pour faire évaluer notre client, pour être sûr et certain que notre client puisse avoir une justice pleine et entière? Et si jamais le psychiatre juge que cette personne-là ne connaît pas la notion du bien ou du mal actuellement ou lorsque le crime a été commis, parce que des fois, les évaluations sont faites 7-8 mois plus tard, ce que je trouve un peu louche. Comment on fait pour faire le choix de ces experts-là? Explique-moi comment ça fonctionne.
En fait, c'est l'association de psychiatres, depuis facilement 15-20 ans, demande qu'il y ait un pool de psychiatres qui soit disponible pour les avocats, aussi bien de la défense que les avocats de la couronne, et ça peut être les psychiatres qui sont éventuellement en Pinel, pour pouvoir éviter le magasinage. Parce que c'est quelque chose dont on parle peu, malheureusement, dans la presse, et pourtant, il faudrait en parler, parce que des situations comme le meurtre de la policière à Louisville, il y a quelques années, l'affaire Turcotte, l'affaire de la maman qui a abandonné sa fille, ce sont des situations qui nous interpellent dans notre citoyenneté, dans notre humanité, dans la personne que l'on est. Mm-hmm. Et donc, on se pose des questions. Finalement, en bout de ligne, on perd confiance dans le système de justice alors qu'il y a des solutions qui pourraient exister. Et ce que l'Association des psychiatres demande, c'est que ce pool-là soit disponible et que la couronne, comme la défense, demande que 3 psychiatres puissent évaluer la personne. Sinon, Actuellement, comment ça se fait? Et si tu as beaucoup d'argent, tu vas pouvoir le faire. Eh bien, la défense va, par exemple, essayer d'aller rencontrer une dizaine de psychiatres, va faire évaluer leurs clients par ces psychiatres-là, et en fait, ils vont choisir le rapport qui convient le mieux à la thèse de la défense. On peut imaginer peut-être que ça pourrait se passer ici au niveau de la couronne, que la couronne va privilégier un psychiatre qui a une version qui est relativement proche de ce qu'eux veulent entendre éventuellement aussi. Donc, on utilise une science, la science clinique qu'est la psychiatrie, à des fins de gagner ou non un procès. On n'est plus dans la justice à ce moment-là. Ce qu'il y a de pire, c'est qu'une fois qu'un psychiatre a été sélectionné par un des deux camps, eh bien, il ne peut plus intervenir pour l'autre camp. Donc, si par exemple, il y a un psychiatre qui est interpellé et qui dit « ben voilà, moi je trouve que cette personne-là est non criminellement responsable » ou « cette personne-là est potentiellement criminellement responsable », si ça ne rencontre pas l'attente de l'avocat qui l'a interpellé, eh bien, il ne peut plus parler s'il n'est pas cité à témoin à l'intérieur du procès. Ce qui fait en sorte que c'est une sorte de magasinage qui fait en sorte qu'on perd confiance dans la justice.
Est-ce que la psychiatrie, c'est une science qui est exacte?
Non. C'est une science clinique. C'est une science d'observation. Tu sais, tu m'as interviewé plein de fois sur le TDAH, ouais. On le voit, c'est que souvent, il y a des symptômes qui sont là et on essaie d'interpréter des symptômes. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des conditions médicales qui sont en arrière. Mais souvent, c'est beaucoup plus complexe qu'une vision linéaire, comme par exemple quelqu'un qui a le diabète ou quelqu'un qui est myope. On peut faire une relation linéaire entre une problématique de gestion interne, des sensations visuelles ou éventuellement d'éventuellement l'insuline, voir quel est le degré d'insuline ou de résistance à l'insuline, voir si éventuellement le pancréas fonctionne encore. Donc là, on a quelque chose de linéaire par rapport à ça. Donc, on peut arriver à proposer des médications ou proposer éventuellement qu'on prenne une paire de lunettes si jamais on est devenu myope. Dans le domaine de la psychologie, dans le domaine de la psychiatrie, on est dans des interprétations de comportement d'une personne. Et l'art en psychologie ou en psychiatrie, c'est d'être le meilleur interprète possible pour essayer de donner du sens et orienter de manière adéquate la direction thérapeutique. La direction thérapeutique peut être un médicament, mais ça peut être aussi autre chose.
Est-ce que, parce que tout à l'heure, je te parlais du juge là, qui ne connaît absolument rien à la psychiatrie, puis lui voit d'un côté de la défense un psychiatre qui semble être à la fine pointe de son art et du côté de la couronne, un autre psychiatre qui est aussi top que l'autre. Quand tu n'as pas de connaissances au niveau de la psychiatrie, les juges se basent sur quoi? Sur la crédibilité de l'individu qui est devant eux, la crédibilité de ce psychiatre-là, la façon dont il s'exprime, la façon dont il mentionne avoir évalué l'accusé qui est devant. Puis est-ce que le psychiatre, lui, a ses propres experts? Est-ce qu'il peut consulter ses propres experts ou il doit se fier sur le psychiatre de la défense et le psychiatre de la couronne?
Mais en fait, le juge n'a pas nécessairement à avoir développé des connaissances en psychologie ou en psychiatrie pour déposer un jugement. Son rôle, c'est d'interpréter la loi en fonction des faits qui lui sont rapportés. Donc, s'il a devant lui la couronne et la défense qui présentent en fait leurs experts, et on pourrait imaginer par exemple dans le cas d'une personne qui est internée à Pinel ou dans un asile psychiatrique que ce sont des psychiatres dûment reconnus qui sont acceptés peut-être éventuellement par les deux parties. Et en fait, ces psychiatres-là vont exposer des faits. Ils vont exposer en fait la personne, quand elle a fait telle ou telle ou telle chose, visiblement, elle n'était probablement pas dans son état normal ou elle était dans un état de conscience altérée ou éventuellement, elle n'était même pas consciente de la réalité. Donc, compte tenu de ça, elle ne savait pas ce qu'elle faisait à ce moment-là. Et là, le juge va prendre à ce moment-là une décision en son âme et conscience au départ de la loi. Il y a quatre maladies qui sont reconnues par la loi, en fait, au Québec. La schizophrénie, la paranoïa, la schizophrénie affective dont on parle beaucoup avec la maman. Il y a une quatrième, je pense, c'est la psychose toxique. D'accord? Ou c'est bien défini par la loi au Québec que si on peut accepter le diagnostic proposé par le psychiatre à ce moment-là, ça permet au juge d'énoncer un avis, un jugement comme quoi la personne est non criminellement responsable. Mais là-dessus, est-ce que on n'est pas parfois dans une situation où on présente des faits qui dédouane, déresponsabilise la personne, mais les faits sont quand même là. Un acte criminel est quand même là. C'est certain qu'il va y avoir une différence entre une maman qui abandonne sa fille au bord de la route et une maman ou un papa qui va éventuellement mettre fin au jour de son enfant. Donc, il y a une gradation dans les faits aussi, mais on peut être à l'origine avec la même affection psychiatrique qui nous amène dans une direction ou dans une autre en fonction justement de cette perte de contact avec la réalité.
On dirait que je ne voudrais pas être ce juge-là. Je demanderais, moi, l'avis de d'autres psychiatres qui sont peut-être un peu plus neutres parce que ça doit être compliqué quand tu as deux experts dans un champ d'expertise que toi, tu n'as pas idée. Là, c'est quoi? Tu essaies de te fier à ce que ces gens-là te disent puis tu dois faire respecter la loi puis tu prends ta décision. Mais j'étais persuadé, Joël, puis tu me l'apprends, j'étais persuadé que ces gens-là avaient une base de référence. Si jamais il y avait des questionnements par rapport à telle ou telle situation, ils pouvaient aller voir quelqu'un de neutre dans le dossier, principalement de la psychiatrie puis de la psychologie.
Mais c'est pour ça que les psychiatres proposent qu'on ait un pool. Ouais. Donc, ce sont des psychiatres qui seraient potentiellement neutres, qui ne seraient pas payés par une partie ou par une autre partie. Donc, leur jugement ne serait pas altéré par la personne qui les rémunère. D'accord? Et ça permettrait peut-être d'aller un peu plus loin. Mais tu soulignes un phénomène qui est encore plus grave, je te dirais, dans le monde des cours de jeunesse, cours de la jeunesse, parce que bien souvent, quand un père et une mère qui se disputent, deux parents qui se disputent pour la garde d'un enfant, ou parce qu'il y a éventuellement une problématique, la famille est sous le contrôle, le suivi de la DPJ, eh bien c'est certain que les juges ne se rendent pas nécessairement toujours compte. Par exemple, c'est quoi l'aliénation parentale? De quelle manière est-ce que ça peut jouer? Et puis moi, l'expérience clinique que j'ai eue, chaque fois que j'ai vu ou que j'ai eu éventuellement à intervenir auprès d'une famille qui était suivie par la DPJ, qu'elle passait devant un juge, mais souvent, on se rendait compte que le juge donnait un a priori favorable aux parents le plus en détresse, alors que l'autre parent qui essaye de signaler « Hey, regardez ce que l'autre parent est en train de faire », d'accord? Eh bien, lui ou elle, parce que ça pouvait arriver des deux côtés, c'est cette personne-là qui, bien souvent, perdait la garde de ses enfants au profit du parent qui était le plus affecté sur le plan psychologique, parce que le juge n'a pas les ressources pour pouvoir arriver en fait à distinguer les avantages. Je sais que la nouvelle bâtonnière à Montréal aimerait beaucoup qu'on commence à discuter de psychologie et de psychiatrie avec les juges pour que les juges puissent avoir notamment une meilleure connaissance et être capables de déceler à quel moment l'expert qu'ils ont devant lui ou devant elle n'est peut-être pas nécessairement le plus neutre qu'on souhaiterait l'avoir.
OK. Joël Monzé, docteur en neurosciences, est-ce qu'il y a des gens dans notre société qui... Parce que tout à l'heure, tu nous disais, à partir de 7 ans, 7 ans et demi, on peut savoir la notion, pour quelqu'un qui est normalement constitué, on peut connaître la notion du bien et du mal. On commence à se familiariser avec ça à 7 ans. Est-ce qu'il y a des gens dans notre société qui n'ont jamais été familiarisés avec ça et qui n'ont aucune idée de la notion du bien et du mal? Est-ce que les psychopathes, exemple, ont cette notion-là ou ils ne l'ont pas du tout?
Mais en fait, ils peuvent avoir une notion de bien et de mal qui ne sera pas nécessairement la même notion que toi et moi. Dans le sens que, prenons un chef d'État qui part en guerre contre un autre pays, est-ce qu'il n'a pas perdu le contact avec la réalité? Parce que quelque part, il y a des organismes internationaux, c'est peut-être lent, mais il y a des organismes internationaux pour réguler normalement des conflits entre pays. Donc, on peut, mais le chef d'État qui part en guerre est persuadé de faire la bonne chose pour son peuple. Et donc, on se rend compte là-dedans, on est dans une dynamique où la notion de bien et de mal est dépendante de la manière dont on perçoit les choses. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est universel, le bien et le mal. Alors, c'est certain qu'avec notre éducation, ici au Québec, on a quand même une culture relativement homogène et on pourrait probablement déterminer ce qui est bien et ce qui est mal d'une manière... assez uniforme à travers la province. D'accord? On pourrait imaginer qu'en Ontario ou en Belgique, ce serait un peu la même chose. Alors que si on regarde dans d'autres pays, la notion du bien et de mal ne sera peut-être pas nécessairement de la même définition parce que la culture va intervenir. Un autre élément, on peut savoir, que, par exemple, que c'est mal de prendre son téléphone quand on est en voiture parce qu'on sait qu'on pourra avoir un ticket, mais peut-être que pour nous, c'est tellement important de faire le suivi de nos textos ou d'un appel téléphonique qui pourrait entrer, qu'on va accepter d'être distrait. On sait intellectuellement que c'est le mal, mais on va quand même, parce que pour nous, c'est bien de prendre le téléphone. Alors, c'est certain que si on est tout seul à un feu rouge, il n'y a peut-être pas trop de danger, mais si la voiture est en train de se déplacer, qu'elle dévie de sa trajectoire, qu'elle frappe éventuellement une autre voiture ou un cycliste ou un vélomoteur, mais veut pas, là, on va avoir à ce moment-là une problématique d'un acte qui est criminellement responsable, mais la personne, elle ne pensait pas nécessairement dans son schéma de pensée qu'elle faisait quelque chose de mal.
Je comprends, je comprends. Est-ce que, puis des fois, c'est des observations qu'on fait en tant que parents, là, puis en jasant des fois avec nos chums, il y a des enfants qui ne semblent pas avoir cette notion-là du bien et du mal. Tu sais, on dirait que c'est des futurs criminels en devenir, puis parfois, ça cache des fois des enfants qui ont été maltraités. Mais ces jeunes-là se ramassent très rapidement, 7, 8, 9, 10 ans, incontrôlable. Les parents ne savent pas quoi faire avec ces enfants-là. Et finalement, c'est la Direction de la protection de la jeunesse qui embarque là-dedans. Et ces gens-là, on considère qu'ils sont pratiquement pas récupérables parce qu'on dirait qu'ils ont un gène de criminalité en eux. Ils font du mal aux autres, ils frappent les jeunes, ils écoutent jamais les directives. Y a-t-il des enfants qui naissent sans ça, sans connaître la notion du bien et du mal? Qui ont plus de criminalité en eux?
Je dirais que la notion du bien et de mal est avant tout une notion d'éducation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un enfant prend, par exemple, des insectes, il capture un insecte et il arrache les ailes de son insecte, mettons un grillon ou une mouche, et qu'il le fait, il trouve ça amusant, il essaie d'observer. Il peut le faire pour explorer le monde, pour essayer de comprendre tiens, comment l'insecte fonctionne sans une aile. J'arrache une patte, qu'est-ce que ça marche? On est dans le monde de l'insecte. Mais après, bon, OK, j'ai le goût de le faire avec une grenouille. Et là, j'arrache la patte de la grenouille. Ou je prends mon chien et je le saisis par la patte et je m'amuse à le faire tourner dans les airs en saisissant par la patte. Si l'enfant n'a pas une résonance émotionnelle avec éventuellement la douleur de l'animal, mais il pourrait éventuellement continuer. S'il n'y a aucun adulte qui lui dit « Hey, est-ce que tu te rends compte que tu fais mal au chien? Tu fais mal à la grenouille? » D'accord? Peut-être que l'adulte n'interviendra pas aussi fort si c'est un grillon ou une mouche. D'accord? Donc, l'adulte va avoir un rôle de définir ce que tu es en train de faire, ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable. D'accord? Et on s'entend qu'un enfant de 7 ans, ce n'est pas la même chose qu'un jeune de 17.
Exactement.
Donc, la notion va évoluer en fonction de ça, mais c'est avant toute chose un état d'éducation qui définit dans notre société ça on accepte, ça on n'accepte pas. Si l'enfant n'a pas de résonance émotionnelle, ça devient problématique. Et c'est là, bon, tu as nommé le concept de psychopathie, mais souvent la personne qui est psychopathe, elle a une perte en fait neuronale dans une partie du cerveau qu'on appelle l'orbitofrontale. En fait, vous regardez votre tempe à droite, c'est une partie qui est proche de votre tempe à droite dans votre cerveau. Cette partie-là, quand par exemple on voit quelqu'un qui tombe, quand on voit un accident, quand on voit des images au journal où on nous montre des drames, d'accord, on va avoir de la peine, ça va nous perturber, ça va nous faire ressentir pas bien et tout ça. On va vouloir éventuellement protéger quelqu'un, on va vouloir faire du bien auprès de cette personne-là. Donc en fait, ces neurones-là ont comme fonction de nous amener en fait à prendre soin de l'autre et à éviter de faire le mal, dans le sens qu'on va vouloir que l'autre aille bien. Mais les enfants qui n'ont pas cette partie-là, d'accord, et on a deux catégories de personnes, soit c'est arrivé, il y a un drame pendant la grossesse, d'accord, et à partir de ce moment-là, il y a un effondrement de l'orbitofrontal droit, soit éventuellement cette personne-là subit beaucoup, beaucoup de violence de la part de son environnement, souvent parents, d'accord, et à ce moment-là, là aussi, on va avoir un effondrement, et bien ces personnes-là vont avoir la difficulté à avoir de la résonance empathique pour d'autres personnes. Ils vont lire l'émotion de l'autre, mais ils pourraient presque avoir du plaisir à faire mal. Et là, ça devient une zone beaucoup plus intéressante en termes d'éducation, parce que si on peut repérer ces enfants-là très tôt, ils peuvent faire d'excellents citoyens parce qu'on va les éduquer. Ça, c'est bien, ça, c'est mal. Mais si on ne les repère pas, si on ne met pas un environnement qui est adéquat, si on met un environnement, par exemple, qui est violent, dans de l'abus, dans de l'intimidation et autre chose, à ce moment-là, ben, on va maintenir en fait cette perte d'empathie. Et cette perte d'empathie, là, va peut-être conduire la personne ultérieurement à faire des actes criminels.
OK. L'empathie, et puis je veux, on va en revenir au sujet dans les prochaines secondes, mais l'empathie, est-ce que c'est inné? À la naissance ou c'est acquis avec, en vieillissant? Puis est-ce qu'il y a des gens qui sont totalement dénués d'empathie? J'essaie de comprendre parce que moi, chez mes gars, j'en ai un qui est très empathique. Les deux ont été élevés pareil, là, mais j'en ai un qui est très empathique envers les êtres humains, envers les animaux. Il est très, très sensible. L'autre, des fois, il faut lui faire réaliser que, exemple, il est dans un milieu où les gens autour de lui sont bien nantis, il y a une maison et tout ça. Puis des fois, j'y jase des personnes qui sont sans-abri, des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, d'alcoolémie. Puis je sais que c'est un bon garçon, je sais qu'il nous aime, puis qu'il y a de l'amour et tout ça, mais il y a de la misère à comprendre, tu sais. Ces gens-là, ils souffrent pourquoi? Tandis que l'autre, c'est vraiment là, la petite fleur bleue. Là. Il y a quelque chose. Dès qu'il voit un chat, c'est la panique. Là. Il veut prendre le chat, puis il le caresse, puis il a bien du plaisir. Puis s'il voit un enfant pleurer, il va aller tout de suite vers l'enfant, puis il va vouloir l'aider.
Mais je dirais qu'il faut faire attention à l'empathie et la manifestation de l'empathie.
OK.
Dans le sens que si un chirurgien est en train de m'ouvrir le torse pour aller réparer mon cœur, je n'ai pas besoin qu'ils soient empathiques. Par contre, avant ou après l'opération, ouais. D'accord, j'espère qu'il va être un humain qui rencontre un autre humain.
Ouais.
Donc, autrement dit, tu pourras avoir un de tes enfants qui, lui, serait incapable d'être chirurgien. Parce qu'il n'est pas capable de séparer, en fait, l'impact, par exemple, de couper le torse, d'accord, avec la douleur que ça pourrait occasionner. Mais si je suis complètement endormi, on s'entend que je m'en fous. L'objectif, c'est que mon cœur fonctionne.
Ouais.
Mais peut-être que celui de tes deux fils, qui est pour l'instant un peu fleur bleue, comme tu le disais,
ouais.
Il ne sera jamais chirurgien, alors que l'autre pourrait être un chirurgien compétent qui va faire son travail, qui va essayer de trouver les meilleures stratégies possibles au niveau médical pour pouvoir soigner son patient, mais il va faire la part des choses entre la souffrance potentiellement et la qualité de son travail. Donc, tu pourrais avoir un autre enfant donc, qui pourrait être aussi beaucoup plus efficace. On s'entend que celui qui est fleur bleue, il ne faudrait pas qu'il soit pompier parce qu'il va être trop pris par ses émotions. Mmh. Alors que l'autre peut être dans un engagement comme pompier, comme policier, d'accord, qui il va prendre un risque pour sa vie, pour sauver quelqu'un indépendamment de ce que la personne a fait ou n'a pas fait. Donc, vraiment faire une séparation entre l'empathie et la manifestation de l'empathie. Si maintenant un parent dit « Oui, mais quand mon enfant frappe son frère ou sa sœur, il ne manifeste pas d'empathie », ben ça peut arriver aussi. Parce que dans une situation conflictuelle entre deux frères ou entre deux élèves, eh bien, il y a des moments où on est tellement pris par les émotions que la colère est manifestée par éventuellement des coups. De nouveau, quand on est enfant, c'est normal. Quand on est ado, on est encore dans la normalité. Par contre, si un jeune veut rentrer dans une gang de rue, et pour rentrer dans une gang de rue, il doit aller cranter quelqu'un qu'il ne connaît pas, mais là, on est dans un problème. D'accord. Là, on est dans une personne qui est prête à utiliser l'autre. Donc, l'autre n'existe pas. L'autre n'a pas d'individualité. Et il n'y a aucune empathie. L'autre, c'est simplement un objet que je peux casser. Et à ce moment-là, je vais rentrer dans une gang de rue.
Des fois, je lis des citations de philosophes, puis je trouve ça intéressant, des fois, les réflexions que les philosophes avaient, puis ça me fait partir dans ma tête. Mais on dit souvent qu'il faut, faut souffrir, il faut connaître la souffrance pour être empathique. Ça a-tu un lien? Quelqu'un qui souffre, puis est-ce qu'on devient plus empathique quand on a souffert?
Ben, pas nécessairement. Je pense qu'un des exemples qui a été le mieux documenté, c'est Hitler.
Ouais.
Hitler a été violenté de manière terrible pendant toute sa petite enfance,
ouais.
Sa mère aussi. Et on voit ce que c'est devenu d'un point de vue historique, c'est atroce. Donc, pourtant, ce gars-là, il a souffert. Donc, ça, c'est tantôt, tu te souviens, je te disais qu'il y avait deux catégories de gens qui perdaient la partie orbitofrontale de leur cerveau à droite. D'accord? Bien, on peut le perdre soit à cause d'une problématique pendant la gestation, pendant que le bébé est dans le ventre de sa maman, ou on peut le perdre à cause de la violence éducative qui est vécue durant la petite enfance. D'accord? Donc, à partir de ce moment-là, on voit que ce sont des personnes qui souffrent. Par contre, peut-être que si je vis dans un environnement qui est ouaté, parce que mes parents ont toujours pris soin de moi, parce que mes parents se sont arrangés que je ne manque de rien et tout ça, peut-être que je n'aurais pas nécessairement la même perception de la souffrance. Alors que si je suis dans un environnement peut-être plus rude, d'accord? Eh bien, à partir de ce moment-là, je vais avoir des actions où je vais comprendre la rudesse de la vie. Je vais comprendre que, oh, la vie, elle est rough parfois. Puis ça va peut-être éveiller quelque chose en moi où je vais avoir envie de faire du bénévolat, où je ferai un métier pour pouvoir aider les autres. D'accord? Puis on peut aider les autres comme avocat, comme infirmière, comme médecin, comme enseignant. Donc, il y a différentes manières de pouvoir le faire. Donc, la souffrance peut nous amener à ça. Mais on n'a pas nécessairement besoin de souffrir. Tu sais, il y a des expériences qui ont été faites chez des jeunes bébés de quelques mois, on les met devant des boules rouges et des boules jaunes. Et donc le bébé qui a 6 mois, il regarde l'adulte qui est devant lui et l'adulte prend par exemple des boules rouges. Et bien, il y a un moment donné où le bébé va pousser les boules rouges parce qu'il interprète que l'adulte aime les boules rouges. Et puis si on fait une autre expérience peut-être avec le même bébé, un autre adulte qui lui va choisir les boules jaunes, et bien le bébé, c'est le même bébé, quand il voit que l'adulte préfère prendre les boules jaunes, il va pousser les boules jaunes pour que l'adulte puisse avoir des boules jaunes. Donc on voit que les bases de l'empathie sont là très 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 tôt. D'accord? Dans l'expérience, donc elle est d'origine génétique. On est génétiquement programmé pour être empathique. C'est une base en fait de la protection. Mettons que Québec se fait attaquer par des Vikings, c'est notre empathie pour notre communauté qui va faire en sorte qu'on va vouloir défendre Québec. On va mettre notre vie en danger pour défendre notre communauté. Par contre, on va manquer d'empathie pour le Viking. Parce que si je commence à avoir de l'empathie pour le Viking, je ne défendrai pas non plus mon village. Donc tu vois que la notion de se rapprocher, d'avoir un lien, et c'est d'ailleurs une des choses qui est probablement que tu as dû l'étudier quand tu as fait tes études en animation ou en journalisme, d'accord, c'est que pourquoi est-ce qu'on essaie toujours, quand on transmet une information, de nous faire vivre, d'avoir identifié quelqu'un qui vit quelque chose de difficile pour créer un lien affectif entre le téléspectateur ou l'auditeur et les gens qui vivent le drame, de manière à susciter l'empathie, de manière à susciter l'envie de s'intéresser à ce qui se passe, par exemple, dans un coin du monde qui est soumis à des bombes à tort et à travers.
La mère de la fillette retrouvée vivante en Ontario doit rester détenue à l'Institut Philippe Pinel parce qu'on l'a déclarée non criminellement responsable. Hypothétiquement, qu'est-ce qui se serait passé dans sa tête selon toi? Est-ce que tu peux nous émettre quelques hypothèses? Puis comment on peut en arriver à ces hypothèses-là? Puis ces gens-là qui vivent ces épisodes-là, comment ils se sentent à l'intérieur?
Mais ce que j'ai lu, parce qu'on s'entend que je n'ai pas vu la personne, ce n'est pas un diagnostic ni quoi que ce soit, c'est au départ de ce que j'ai lu et j'ai entendu dans la presse ces derniers jours. Ce que j'en ai compris, c'est que cette maman, elle a cru que sa fille était possédée par un esprit du démon. Et dans un objectif de protéger sa fille, elle a décidé de l'abandonner au bord de la route. Ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement nouveau, dans le sens que quand on regarde un peu l'histoire de la culture catholique, on a eu des exorcistes pendant très longtemps. Et en fait, le prêtre venait, faisait des incantations pour éventuellement aider la personne qu'on soupçonnait d'être possédée par le démon puisse éventuellement aller mieux. La seule chose qu'il y a, c'est que dans ce cas-ci, elle a mis sa fille en danger, alors que si elle avait été voir un curé. D'accord? Je ne suis pas en train de dire que le curé fait ou ne fait pas la bonne chose, je suis juste en train de parler du phénomène. C'est que si elle veut avoir un curé, à ce moment-là, ben, elle ne met pas l'enfant en danger. Alors qu'en abandonnant son enfant au bord de la route, elle a mis clairement son enfant en danger. Ce que j'ai compris aussi à travers ce que j'ai lu, c'est que le juge a considéré, au départ de ce que les psychiatres ont expliqué, que la personne, au moment où elle a abandonné son enfant au bord de la route, elle n'était plus en contact avec la réalité. Donc, elle ne pouvait plus arriver à déterminer est-ce que ce que je suis en train de faire, ça a du sens ou du gros bon sens ou pas. Mais j'aurais envie de dire, quand je prends mon téléphone On s'entend, je ne le fais pas. Mais si je prends mon téléphone pendant que je conduis, là aussi, je perds le contact avec la réalité mm-hmm. parce que je ne me rends pas compte que je pourrais éventuellement blesser quelqu'un. Donc, on voit que la notion de conscience des impacts ou conscience des conséquences ou dans ce qui nous motive, il y a toute une zone d'ombre dont on parlait un peu tantôt. Et pour cette personne-là, ben, visiblement, elle a besoin d'aide. Elle a besoin d'être encadrée. Elle a besoin qu'on l'évalue. Encore faut-il qu'on lui donne de l'aide. Si on se contente simplement de lui donner des antipsychotiques, ben, je suis désolé, on ne l'aide pas. On va peut-être normaliser chimiquement son comportement, mais on ne l'aide pas. Qu'est-ce qui amène cette personne-là à penser que sa fille est possédée du démon? Donc, il y a besoin probablement de psychothérapie, mais c'est rare. Tu sais, j'ai été professeur en psychiatrie pendant des années, et une des choses que mes collègues m'ont reflété à quelques reprises, ils me disaient, toi, tu as de la chance, tu fais de la psychothérapie. Hein? T'en fais pas? Parce que pour moi, tu sais, je viens de Belgique, donc les psychiatres, souvent en Belgique, ils font de la psychothérapie avec ou sans médication, ça va dépendre le besoin, mais la médication s'accompagne régulièrement de l'intervention en psychothérapie de la part du psychiatre. Et donc, en fait, je leur demande, ben, tu fais pas de psychothérapie? Puis là, le psychiatre me répond, ben non, parce que le système fait en sorte qu'on me demande de donner des médicaments. Alors, de temps en temps, je peux éventuellement prendre un patient ou l'autre pour pouvoir l'accompagner, mais dans la plupart du temps, la seule chose qu'on me demande, c'est de prescrire des médicaments. Je ne crois pas qu'on aide une personne si on ne fait que de prescrire des médicaments, surtout dans un contexte où les symptômes d'une personne peuvent originer de tellement de zones différentes dans leur cerveau, de tellement d'origines différentes, d'accord, dans leur comportement ou dans leur histoire, que si on ne donne pas une aide psychothérapeutique, probablement qu'on passe à côté du vrai besoin de la personne. Et c'est ce qui fait en sorte que, je reprends l'exemple de Louisville, où la personne a été trouvée 5 fois non criminellement responsable, et la 5e fois, elle a mis fin à la vie d'une jeune femme de 35 ans qui était policière. Donc, on voit que c'est parce qu'il n'y a pas eu d'aide. La seule chose qu'on a fait, c'est de lui donner des médicaments. Donc, si la personne ne prend plus ses médicaments, mais est-ce qu'elle ne représente pas éventuellement un danger pour elle-même et pour l'environnement? Et ça, on rentre de nouveau dans toute une grande difficulté et une ligne à essayer de tracer d'un point de vue juridique ou d'un point de vue droit humain.
Joël, quand on se promène à Montréal ou on se promène à Québec, parfois on côtoie des gens qui sont rendus itinérants, qui sont toxicomanes, des gens qui sont vraiment maganés. La chimie du cerveau semble être tellement déréglée que ces gens-là parlent tout seuls. Ils voient des affaires que moi, je ne vois pas. Visiblement, ils entendent des choses aussi que moi, je ne vois pas. Comment ça se passe dans leur tête? Ils voient vraiment des individus comme toi et moi, on se voit ce soir par l'entremise d'Internet. Ils entendent vraiment des voix de gens qui n'existent pas. Puis ils ne sont pas capables de se dire dans leur tête, un peu, là, ce gars-là est en train de me parler, mais il n'existe pas vraiment. Ils ne voient pas la différence.
Mais par exemple, dans ton cerveau, comme dans le mien, comme dans ceux qui nous écoutent pour l'instant, quand on se parle à nous-mêmes, d'accord, il y a quelque chose qui, dans notre cerveau, fait en sorte qu'on sait qu'on se parle à nous-mêmes. Il y a une connexion entre une zone et une autre, donc deux zones qui communiquent ensemble, qui font en sorte qu'on va faire une différence entre « je me parle à moi-même » ou « je parle à mon voisin » ou « j'écoute la radio ». Quand une personne va entendre des voix, ces deux zones-là ne communiquent plus ensemble. Ce qui veut dire qu'il y a une perte de conscience du fait que je me parle à moi-même. Et quelque part, si je peux prendre une image pour aider les personnes à comprendre, c'est que quand on fait un rêve, d'accord, quand on est plongé dans notre rêve, on croit vraiment qu'on est en danger, par exemple, surtout si c'est un cauchemar, ou si c'est très, très agréable le rêve, on croit vraiment qu'on est en train de vivre une vie incroyablement belle parce que notre rêve est magnifiquement beau. D'accord? Mais on est dans un espace de rêve. Mais quand on se réveille, on sait qu'on a rêvé. On fait la différence entre le rêve, d'accord, et la réalité. Ça, c'est quelque chose qui s'installe pendant l'adolescence. Donc, ce n'est qu'à la fin de l'adolescence que vraiment nos jeunes vont être capables de pouvoir prendre la différence entre l'imaginaire, le virtuel, et la réalité. Donc, ce n'est plus une question de bien ou de mal. Et par exemple, il y a des études qui démontrent que des jeunes qui regardent régulièrement des films d'horreur vont être beaucoup plus angoissés que des enfants de 4 ans. Parce que leur cerveau a de la misère à faire la distinction entre l'imaginaire, le virtuel, et la réalité en tant que telle. Donc, c'est un apprentissage. Il faut que des connexions se fassent entre des zones du cerveau. Et il y a des fois où elles se font, des fois où elles sont fragiles. Et chez les personnes chez qui c'est fragile, ben, rendu à l'âge adulte, malheureusement, il y a plus de risques éventuellement que la personne perde le contact avec la réalité.
Fait que c'est comme si ces gens-là rêvaient éveillés, puis ils entendaient des voix, puis ils voyaient vraiment des gens, mais sont incapables de comprendre que Joël qui passe devant moi, ça, c'est un vrai être humain qui est là, puis Satan qui est à côté, qui me parle, lui, c'est vraiment ma psychose. Ils sont incapables de faire la différence entre les deux.
Mais c'est ce qui fait bien souvent que les juges vont considérer que la personne est non criminellement responsable. Mais tu sais, quelque part, quand on regarde un film d'horreur, on va, premièrement, on nous fait nous attacher aux différents personnages. Souvent, il y a un papa, une maman, un petit gars, une petite fille, et le voisin qui se fait croquer. Et au moment où le voisin se fait croquer, intellectuellement, on sait qu'on est dans notre salon, bien confortable, d'accord? Mais tout notre corps se met à réagir comme si on était réellement en danger nous-mêmes. Alors là, on va avoir plein de réactions. On va avoir des réactions physiologiques, on va avoir des réactions comportementales. On voudra peut-être aller prendre un peu d'alcool, on voudra aller prendre du pop-corn, du chocolat pour essayer de se rassurer un peu. Mais on est pris dans le film. Et c'est comme si, justement, une personne qui a une psychose, elle est prise dans un film qu'elle s'autogénère, d'accord? Et il n'arrive pas, en fait, même s'il sait qu'il rêve ou qu'il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, tout son être est pris par la situation psychotique, et à ce moment-là, elle n'est plus capable de pouvoir fonctionner.
Quelle histoire. Est-ce que, dans le cas où on évalue ces gens-là, quelques mois plus tard, c'est arrivé dans le cas de Guy Turcotte, là, ça a pris des semaines et des semaines avant qu'on l'évalue, est-ce qu'on est capable, avec une certitude là, à 100%, de dire « Ah, quand il a fait telle ou telle chose avec ses enfants, il n'était plus là », ou quand il a fait telle ou telle chose avec ses enfants, il était là. Est-ce qu'on est capable d'y aller avec certitude? Est-ce que les gens qui commettent des crimes atroces comme celui de Guy Turcotte sont capables de faker une psychose?
Mais en fait, c'est que ça a été la thèse du premier procès. C'est pour ça qu'il était considéré comme non criminellement responsable. Mais il y avait aussi une problématique, c'est que le juge, pour lui, c'était inconcevable qu'un médecin puisse agir de cette manière-là, surtout avec tout ce qu'il avait entendu de bon sur Guy Turcotte, parce qu'il est quand même reconnu comme un excellent cardiologue. Donc, pour lui, il a demandé, en fait, à la couronne de ne pas parler de ce qui s'est passé au-delà de 10 minutes avant le crime et au-delà de 10 minutes après le crime. Donc, rien que dès le départ, le juge avait orienté un petit peu le travail de la couronne, qui fait en sorte que là, ben, ça suspectait que oui, il y avait une série de circonstances qui, entre guillemets, avait poussé Guy Turcotte à perdre le contact avec la réalité pendant une vingtaine de minutes, le moment où il a massacré ses enfants. Dans le deuxième procès, l'autre juge, le deuxième juge, n'est pas allé dans cette direction-là parce qu'il y avait toute une évolution dans le comportement de Guy Turcotte qui montrait en fait que cette personne, sur le plan psychologique, était plus fragile que d'autres personnes et qu'en fait, il y a eu une continuité de comportement qui était un peu annonciateur, d'accord, de ce qu'il allait faire avec ses enfants à un moment donné. Et il y a des preuves après, il y a des lettres qui ont été échangées par Isabelle Gaston et Guy Turcotte qui démontrent en fait que la psychose n'était probablement pas très présente au moment où il a fait les gestes, si ce n'est que dans sa notion de bien et de mal, c'est bien de massacrer mes deux enfants pour nuire éventuellement à la mère qui m'a rejeté. D'accord? Donc, il y a cet enjeu-là qui est probablement très, très, très important. Mais si je reviens, en fait, ça peut arriver. Tu sais, tantôt, quand je te disais qu'on peut avoir, durant notre adolescence et notre enfance, des situations qui sont problématiques, qui font en sorte qu'on perd un peu... On n'a pas une assise entre le bien et le mal, où on n'a pas une assise entre le virtuel et le réel. Ça fait en sorte qu'éventuellement, on pourrait se retrouver dans des situations où, rendu à l'âge adulte, puis j'en ai vu plusieurs fois dans ma carrière, ou chez des enfants d'amis, d'accord, ce sont des jeunes qui fonctionnent bien, ils sont bons à l'école, ils font ce qu'ils peuvent, et ainsi de suite. Puis à un moment donné, il y a un événement X, une rupture amoureuse, un changement de travail, un déménagement, une perte de job, d'accord? il y a un événement qui va être le déclencheur éventuellement, et là, la personne va tomber malheureusement dans la schizophrénie ou dans la schizoaffectivité, comme ça peut être le cas de la maman, donc, dont on parlait tantôt, tu sais. Et donc, ça peut être des personnes qui vont relativement bien pendant plusieurs années, puis qui malheureusement, il y a un moment donné, il y a comme un point de rupture qui se fait, et ce point de rupture psychologique-là fait en sorte, moi j'ai appelé ça une bascule de l'esprit, quand on m'a demandé d'interpréter un peu ce qui se passait avec Magnotin et Turcotte il y a une douzaine d'années. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a des bascules de l'esprit. Plus les bascules de l'esprit sont violentes, plus la personne tombe dans un état où elle est de moins en moins en contact avec la réalité à laquelle toi et moi, on adhère. On le voit très bien aussi dans le film et le livre qui raconte l'histoire, en fait, l'enfance de Hitler. Ça s'appelle « L'éveil de l'ombre ». Et d'ailleurs, ce film-là, quand il est sorti à la télé ou au cinéma, je ne me souviens plus si c'était... C'est un long film de bon, au moins 3 heures. Donc, je pense que c'est un film qui a été proposé pour la télé plus que le cinéma. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voyait Hitler comme un être humain meurtri qui basculait de plus en plus à chaque fois qu'il rencontrait un drame. Et son interprétation de la situation, ben, soit il est un élu de Dieu. Par exemple, il a échappé à une bombe pendant la guerre 14-18, il est dans une tranchée, il est en train de prendre son café avec ses copains, d'accord ? Il sort en fait pour satisfaire un besoin et il y a la bombe qui tombe en fait à l'endroit où il était quelques instants après, puis tous ses copains sont morts et pas lui. Donc il est élu de Dieu. Donc c'est son interprétation qui pose problème, où il essaye d'être inscrit dans un programme, je pense, d'art, et puis finalement il se rend compte que Il est rejeté, il n'a pas les notes ou il n'a pas le contre. Donc, c'est de la faute des autres parce que lui est tellement incroyable que c'est nécessairement de la faute des autres. Et puis, à ce moment-là, on va souvent justifier mon malheur, c'est à cause des autres. Et ça, ce sont des prémices qui, quand ça arrive malheureusement trop souvent, ça peut nous faire basculer dans une compréhension de la vie qui est bien triste parce que ça peut amener certaines personnes à poser des actes criminels.
Ce soir, on a le plaisir de passer la soirée en compagnie de Joël Monzé, docteur en neurosciences. On parle de plein de sujets hyper intéressants. Je vous demande de rester à l'écoute. On va revenir dans les prochaines secondes.
Marceau le soir. Marceau le matin. Marceau le matin. Le matin.
Soleil qui se lève avec nous autres. Salut Soleil, salut les auditeurs, salut à tous ceux qui nous ont écrit entre 5h et 6h. Vous êtes de bonne heure à Québec?
Ok, oui.
C'est qui se passe?
Toi aussi, t'es de bonne heure.
Je pensais pas qu'il y avait de la vie avant 10h le matin. Avant, j'étais Marceau le soir. Après ça, j'ai fait Marceau le soir à 18h. Après ça, j'ai fait Marceau le midi. Après ça, j'ai fait Marceau le midi à 10h. Puis là, je fais Marceau le matin
ouais.
De 6h à 10h.
Oui, fait que là, si on veut descendre encore, il va vraiment falloir que tu fasses un show de nuit. Puis ouais, là, on va faire le tour.
Exactement. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont à l'écoute, des amis, des auditeurs, des collègues de travail. On n'aura pas le temps de vous répondre aujourd'hui, j'en suis pas mal persuadé. Mais sachez que je lis absolument tout ce qui va passer. Puis je vous remercie d'être là. C'est une belle aventure qui débute.
Marceau le matin, tous les jours en semaine, 6h. Puis en rattrapage où, Marceau?
Ben sur le blvd.fm.
Bravo!
Y'a rien là! C'était écrit sur la feuille!
102.1.
C'est payant d'écouter Boulevard 102.1.
Restez à l'écoute de Boulevard 102.1 pour gagner votre paire de billets pour aller voir Live et Big Rec le 11 mars prochain au Centre Vidéotron.
Boulevard 102.1. Votre pocheur d'étiquette.
Saviez-vous que Vacances Sunwing offre maintenant des forfaits tout inclus pour la Jamaïque au départ de Québec? Visitez décollerdequebec.ca ou consultez votre conseiller en voyage.
Ta voiture est comme pas neuve, mais t'en veux une neuve? On peut reprendre ta comme neuve et même t'en trouver une neuve. Pour une voiture, c'est Charlebourg Toyota. Évalue ta comme neuve au comme-neuve.com.
Pas de circulaire métro reçu par la poste? Pas de problème. Cette semaine chez Métro, économisez sur plus de 7500 produits en promotion. Le sac de 10 litres de pommes de terre est à 1,99 $. Le rôti de contre-filet désossé est à 9,95 $ la livre ou 21,94 $ le kilo. Le beurre sélection 450 grammes est à 4,88 $. Pour consulter notre circulaire complète en ligne, on se retrouve sur metro.ca. Des conditions s'appliquent. Détails en magasin.
Bon, faut que je magasine mes assurances.
Moi, j'ai tout fait en ligne. Merci, bonsoir.
T'es avec qui?
Avec CA Québec. J'ai regroupé mon assurance auto et habitation et ça donne un méchant bon rabais. Même pas besoin d'être membre pour s'assurer. Mais être membre, ça fait pas de tort hein, quand t'as une petite tendance à oublier d'éteindre tes lumières d'auto.
Très drôle. Pour un temps limité, obtenez jusqu'à 25 % de rabais et une remise de 50 $ CA en combinant vos assurances auto et habitation chez CA Québec. Certaines conditions s'appliquent. Visitez caquebec.com/assurance-auto.
Un emploi stimulant dans le domaine funéraire, c'est possible. À la coopérative funéraire des Deux-Rives, l'humain est au cœur de tous nos gestes. Joignez-vous à notre équipe engagée. Vous y trouverez un emploi où vous vous sentirez utile et valorisé. Consultez la section carrière de la coopérative funéraire des Deux-Rives.
Si vous voulez faire avancer le monde, on a le métier. Pour vous. Si vous voulez faire avancer votre carrière, on a aussi le métier pour vous. Être chauffeur au RTC, ce n'est pas seulement avoir un rôle clé pour la mobilité durable à Québec. C'est aussi un salaire de base débutant à 32 $ et 35 $. En plus, le RTC s'occupe désormais des frais de formation pour l'obtention de permis de classe 2. Postulez pour devenir chauffeur d'autobus dès maintenant au rtcquebec.ca/carrière. Au RTC, on fait avancer le monde.
C'est la grande vague Yamaha chez Pomerleau-les-Bateaux. Profitez de nos rabais exclusifs du manufacturier Yamaha et soyez parmi les premiers à réserver votre modèle 2026 en précommande. Ne manquez pas cette offre jusqu'au 31 octobre dans nos succursales de Rivière-du-Loup, Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier et Sherbrooke.
Boulevard 102.1 ne recule devant rien pour vous offrir du contenu unique, pertinent et diversifié.
On vous aura prévenu.
Boulevard 102.1.
Tous les lundis soirs, 19h, ne manquez pas le podcast hors-série de Boulevard 102.1. Le podcast hors-série présenté par Chaloux, le paradis de la bière à Québec. Plus de 1000 sortes de bières pour tous les goûts. De la micro d'exception à la micro de soif parfaite. Deux succursales, Beauport et Saint-Émile. Santé!
Déjà dans la famille Mazda, votre fidélité mérite d'être récompensée. Oui, si vous êtes propriétaire Mazda, vous et vos proches qui habitent avec vous pourriez profiter d'une réduction de taux allant jusqu'à 1,5% sur votre prochain véhicule. Imaginez, un taux au financement à partir de 0%. Oui, 0% jusqu'à 36 mois sur modèle sélectionné grâce au programme Fidélité Mazda. Faites vite, l'offre se termine le 30 septembre. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda.
Tu es débrouillard, ouvert d'esprit et fais preuve d'initiative? Hébergement Rive-Nord te veut dans son équipe. Depuis 2015, Hébergement Rive-Nord accueille des résidents présentant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme. Notre équipe dynamique est composée d'éducateurs spécialisés, d'intervenants en délinquance et plus. Salaire compétitif à partir de $22.75, horaires flexibles, assurance collective et soins dentaires. Chez Hébergement Rive-Nord, on prend soin des autres et des nôtres. Postule sur l'onglet carrière au hébergementrivenord.com.
Fou de la bouffe, c'est le choix idéal pour des repas prêts à manger, copieux, frais et savoureux. Offrez-vous des plats délicieux adaptés à vos envies, prêts en seulement 3 minutes. Un nouveau menu succulent chaque semaine avec la possibilité de personnaliser vos repas. Préparé et livré dans des boîtes isothermiques, garantissant des plats au frais jusqu'au moment de la livraison.
Visitez foubouffe.com pour tous les détails. Livraison partout au Québec.
Naguère, chemin faisant sur la grande allée, un cavalier à vélocipède sans protection du chef filait à bride abattue. Au même moment, une fillotte fonça en trottinette alors qu'elle parlementait avec une personne invisible dans sa main. Je me disions, si ces deux énergumènes venaient à croiser un char de fer, il faudra faire des prières. Avec toutes ces nouvelles montures, partout le fief bataille, il faut surveiller son arrière-train.
Un message de l'intendance, de la Ville de Québec, qui vous rappelle qu'être colon sur la route, c'est dépassé.
Le 20 septembre prochain, le CNDF fête ses 60 ans. Dès 17h, participez au 5 à 7 festif au pavillon central. Cocktails et prestations musicales au rendez-vous. Et à 19h30, venez encourager le Notre-Dame au match de football contre le Collège Vanier. Étudiants et membres du personnel d'hier et d'aujourd'hui, les 60 ans du CNDF, c'est une belle occasion de se retrouver. On se voit le samedi 20 septembre prochain. Réservez vos billets dès maintenant au cndf.qc.ca.
Les prix employés Ford continuent chez Desjardins Auto Collection. En ce moment, offrez-vous le Ford F-150 2025 avec jusqu'à 12 975 $ en ajustement de prix et l'Escape PHEV 2025 jusqu'à 5 968 $ en ajustement de prix, incluant l'incitatif provincial de 1 000 $.
Chez Maxi cette semaine, les fraises du Québec sont à 2,95 $, limite de 4. Le beefsteak de côte avec os à 8,88 $ la livre, 19,58 $ le kilo. Le dindon surgelé, 1,44 $ la livre, 3,17 $ le kilo. Pas de circulaire par la poste? Encore plus de rabais en ligne et chez Maxi.
Boulevard! L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans.
poche de short. Puis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. Le soir. Le soir.
Ce soir, on a le plaisir de jaser avec Dr. Joël Monzé, docteur en neurosciences, pour avoir accès à ses interventions, ses conférences, ses formations et ses livres qui sont extrêmement intéressants. Donc, je vous invite à aller sur son site internet joelmonzé.com, joelmonzé.com. Joël, on parlait de psychose. Quand j'étais jeune, on me disait, du côté de la santé, qu'un simple joint de marijuana pouvait vous faire basculer dans une psychose ou encore une schizophrénie. Est-ce que c'est vrai, ça, que la drogue peut être une porte d'entrée vers ça?
Oui. Et c'est surtout pour ça qu'il faut faire attention. Tu sais, les premiers États, comme le Colorado, par exemple, qui ont décriminalisé la vente de pot, l'objectif, c'était de diminuer le plus possible le taux de THC. Pourquoi? Parce que la drogue qui est disponible dans la rue aujourd'hui n'est plus la même drogue qui était disponible il y a 30, 40 ou 50 ans quand les gens commençaient à fumer des joints. C'est qu'il y a eu en fait des jardiniers qui se sont amusés en fait à essayer de trouver les plantes qui contenaient le plus de THC possible. Et à partir de ce moment-là, ben, le taux de THC peut malheureusement en fait devenir problématique. L'aspect, tu sais, quand tantôt je te disais, il y a une bascule de l'esprit qui peut se faire, c'est qu'une personne pourrait consommer 100 fois du pot et ne jamais avoir de problème. Il arrive, perte d'emploi, perte amoureuse, trop de stress, perte de la maison, peur de ne pas être capable de payer son hypothèque. Il fume un joint pour se détendre, parce que dans le pot, il y a du CBD qui aide en fait la personne à se détendre. Et malheureusement, le taux de THC peut faire basculer cette personne-là dans une psychose toxique. Et c'est un peu comme, en fait, je considère que prendre du pot, c'est un peu comme jouer à la roulette russe. Et à chaque fois qu'on l'apprend, d'accord, on reprend une chance qu'il n'y a pas de balle dans le barillet qui pourrait mettre fin à nos jours. Ça ne veut pas dire que tout le monde qui prend du pot va développer une psychose. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais certaines personnes, plus fragiles que d'autres, qui vivent des événements émotionnels beaucoup plus impactants pour ces personnes-là par rapport à leurs ressources internes, fait en sorte qu'elles sont plus à risque éventuellement. Et la volonté derrière, comme je disais tantôt, la décriminalisation, c'est que normalement, l'État propose des produits qui contiennent moins THC que ce qu'il pourrait se retrouver dans la rue, ce qui veut dire qu'on réduit en fait le risque de pouvoir développer éventuellement une psychose toxique. Et je ne sais pas si les gens se souviennent, mais ça a été une des premières batailles de Lionel Carman quand il est arrivé en poste en 2018. Donc, c'est notre ministre des Services sociaux et le responsable de la santé mentale. Donc, Lionel, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est bataillé contre le fédéral pour qu'au Québec, on interdise la vente de pot avant 21 ans. Et quelque part, l'objectif derrière cette volonté-là, parce qu'on est la seule province qui avons ce modèle-là, la volonté, en fait, c'est que l'intention de Lionel, qui est un neurologue, qui en a vu des dizaines et des dizaines de jeunes en psychose toxique quand il travaillait à Sainte-Justine, donc il sait c'est quoi l'impact chez certains jeunes d'avoir cette consommation-là, ce que M. Trudeau n'avait visiblement pas, d'accord? Et donc, à partir de ce moment-là, lui, il a dit « Ok, on va essayer de retarder le plus longtemps possible le premier contact entre une personne et éventuellement la consommation de pot. » Alors, ça n'empêchera peut-être pas un jeune de 14 ans de consommer du pot, parce qu'il va en trouver chez le grand frère, la grande sœur, ou éventuellement les parents vont l'acheter pour lui, d'accord? Mais la loi, elle se positionne justement par rapport à ce degré de dangerosité en tant que tel. Puis de nouveau, ça ne veut pas dire qu'un jeune de 14-15 ans va nécessairement basculer en psychose. Mais comme je vous souviens tantôt, je te disais qu'à l'adolescence, beaucoup d'ados ont encore de la difficulté à se rendre compte quelle est la différence entre le virtuel et le réel. Donc à partir de ce moment-là, ils sont plus à risque que nous, à nos âges, si on consomme exactement le même produit.
Puis à partir du moment où on en fait une, on est susceptible d'en faire d'autres en rafale.
C'est malheureusement ce que l'expérience clinique nous montre. En fait, c'est qu'une fois qu'on fait un premier incident de psychose, on peut peut-être le normaliser avec des médicaments et ça va faire partie de la stratégie thérapeutique. C'est tantôt quand je disais qu'il fallait mettre de la psychothérapie comme parmi les soins de la personne. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre une médication. J'ai accompagné plusieurs personnes qui avaient fait des psychoses toxiques, d'accord, ou qui étaient en schizophrénie. Si elles n'étaient pas médicamentées, moi, mon travail de psychothérapeute, à l'époque où je faisais de la clinique, je ne pouvais pas le faire. Mais la psychothérapie fait partie de l'armement, entre guillemets, dont on a besoin pour réduire les risques, d'accord, que la personne fasse une deuxième ou une troisième ou une quatrième atteinte psychotique, d'accord, de manière à l'outiller, parce que leur cerveau ne demande qu'une chose, c'est de bien fonctionner. Et parfois, les personnes ont... vont être capables en fait de pouvoir arriver à développer de meilleures ressources et peut-être que la médication va pouvoir être diminuée. C'est ça l'avantage, c'est que si on arrive en fait par des mesures secondaires à outiller la personne, ben probablement qu'à un moment donné il y aura peut-être encore un fond de médication, mais la dose sera moins puissante, le neuroleptique sera beaucoup moins invalidant pour la personne, mais probablement que très longtemps, voire toute sa vie, il sera obligé d'en consommer. Et s'il arrête d'en consommer, je ne sais pas si tu te souviens, je pense que c'est M. Magloire à Montréal, qui était un chimiste extrêmement compétent, si je me souviens bien. Et malheureusement, il y a eu un jour où il y a eu trop de stress, basculé en psychose, il prend des médicaments. Un jour, il ne les prend pas, pour une raison que je ne me souviens plus, je l'avais lu à l'époque dans la presse, mais un matin, il ne les prend pas, il arrive dans les rues de Montréal, et lui commence à partir en psychose paranoïaque. Il pense qu'on veut le mettre fin à ses jours. Il réagit très mal. Et malheureusement, la police, dans l'intervention, n'arrivant pas à le raisonner, ils vont malheureusement tirer sur cette personne-là qui va décéder. Donc la notion de médicament va pouvoir être éventuellement, va faire partie de la chose. Souvent, le juge va imposer la médication. Donc éventuellement, soit une piqûre, soit éventuellement, il va y avoir une prise de consommation de médicaments qui va être contrôlée et imposée par le juge pour le bien de la personne et de la communauté.
Il y a une loi au Québec qui existe, qui est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental présente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. C'est la fameuse loi P38. Que penses-tu de cette loi-là? Est-ce qu'elle protège vraiment les gens au Québec? Est-ce qu'elle protège vraiment les gens dont l'état de santé mentale est affecté?
En fait, je pense que la loi doit... D'ailleurs, c'est fortement discuté actuellement dans la presse et dans les différents milieux cliniques. Je pense que la loi doit évoluer dans le sens que, comme je disais tantôt, c'est que ce n'est pas juste en médicamentant une personne qu'on arrive en fait à s'assurer qu'elle ne représente plus un danger pour elle-même ou pour autrui. Il faut un accompagnement. Il faut s'assurer que la personne reçoive les soins dont elle a besoin pour ne pas qu'éventuellement elle commette un acte potentiellement criminel. C'est ça qui est vraiment important. Et aujourd'hui, on a trop l'impression que parce qu'on a donné une médication antipsychotique, on a fait notre job comme société, c'est passé par le psychiatre, on s'entend, et à ce moment-là, on remet la personne dans la rue. Mais quand tu travailles ou quand tu côtoies des gens qui sont des travailleurs de rue, des travailleurs sociaux, des gens qui sont en fait au service des gens qui n'ont pas de toit, qui sont dans la rue, qui mendient et ainsi de suite, bien souvent, tu as des problématiques qui devraient être traitées en hospitalisation. C'est, je crois qu'on avait une bonne intention en désinstitutionnalisant la psychiatrie, ouais. Parce qu'il y a eu des abus, il y a eu, tu sais, par exemple, Alice Roby, c'est bien documenté, on lui a fait vivre des électrochocs de manière complètement absurde, on ne s'est jamais intéressé à sa douleur interne.
On lui a fait une lobotomie, là.
Il y a des lobotomies qui se faisaient, on faisait des transections du corps calleux, donc c'est différentes interventions chirurgicales que les neurologues ou les psychiatres faisaient, mais qui ne rendaient pas nécessairement justice à ce que la personne avait vraiment besoin. Et la plupart des gens, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être entendus. Et tu vois, souvent, la schizophrénie, les bases, on le sait, ça a été démontré par plusieurs expériences à grande échelle, entre autres la présence de la... pour le bébé, quand il est en état fœtus dans le ventre de sa maman, entre le deuxième, troisième et quatrième mois de la grossesse. Mm-hmm. Mais on sait que ce sont des zones qui sont très, très fragiles au niveau du développement du cerveau et ça peut faire en sorte que ce sont des personnes beaucoup plus à risque. Donc, si on venait... aider en fait les mamans, qu'on s'assurait que les mamans soient dans un environnement confortable, sécuritaire, qu'on réponde à leurs besoins pour qu'elles puissent prendre vraiment soin de leur bébé. Ça ne veut pas dire qu'elles doivent arrêter de travailler, qu'elles doivent arrêter leur vie de tous les jours, mais qu'on s'assure de leur donner le minimum vital pour que la grossesse se passe bien. Là aussi, on va diminuer à ce moment-là le risque qu'éventuellement des fœtus devenus bébés, devenus des êtres humains, deviennent éventuellement potentiellement violents. Donc, c'est une question de société. Il faut revoir notre manière d'éduquer les jeunes, il faut revoir notre manière d'accompagner les personnes qui ont des troubles psychiatriques et peut-être que oui, d'être interné dans un environnement sécuritaire avec la médication, avec la psychothérapie, avec des travailleurs sociaux qui vont aider la personne à se réinsérer progressivement dans la société. Probablement qu'il y a une meilleure chance qu'on diminue les actes terribles comme ce qu'on entend parfois dans la presse.
Oui, parce que je lisais, en fait, c'est toi qui me l'as envoyé, une chronique de Richard Martineau qui parlait justement de cette fameuse loi P38-là. Et dans sa chronique, il parle d'un enseignant qui a eu des épisodes schizophréniques qui enseigne à l'université maintenant, qui va très bien. T'sais. Une fois que ces gens-là puissent être, sont bien suivis, prendre leur médication, puissent avoir aussi accès à un bon psychologue, ils sont capables de fonctionner dans notre société et être des contribuables là, impeccables.
Oui, puis il faut faire vraiment attention. C'est pas parce qu'une personne a un trouble en termes de santé mentale que nécessairement ça devient